Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église et de ce numéro que nous allons consacrer à un livre récemment paru aux éditions Artege. Il a pour titre « Éloge spirituel de l'attention » et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, le philosophe Robert Redeker. Bonjour Robert Redeker et grand merci d'avoir répondu à mon invitation pour cet entretien sur Radio Présence dont vous êtes, je crois, un auditeur plutôt fidèle.
Assez fidèle, oui. Je salue tous les auditeurs, tous les amis, parmi lesquels se trouvent de vrais amis qui écoutent Radio Présence.
Vous avez donc fait paraître il y a peu « Éloge spirituel de l'attention » aux éditions Artege. Et pour introduire notre discussion autour de ce livre que j'ai trouvé pour ma part passionnant, étonnant et stimulant, il me semble important de préciser à ceux qui nous écoutent que si c'est bien l'œuvre d'un philosophe, d'un penseur, il me semble que c'est avant tout le fruit d'une expérience très personnelle, directement vécue, et je reprends vos mots dès l'ouverture du livre. L'attention est une expérience, et dans sa version spirituelle, au sens le plus débordant de ce mot, elle est une expérience intérieure. Est-ce que c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit tout au long de la lecture de votre essai? Mais je ne sais pas si le terme essai d'ailleurs est adapté.
L'attention, c'est une expérience à plusieurs niveaux que nous faisons tous. Je crois, dès la petite enfance, l'enfant ne croit, ne grandit, ne devient homme que par l'attention, comme si elle était la nourriture de la croissance. La croissance à tous les niveaux. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a une attention quasi animale, involontaire. Notre croissance biologique a besoin de cette attention-là. Mais alors, je sais que je vais choquer les antispécistes qui sont de plus en plus nombreux, hélas, dans notre société moderne, notre monde contemporain. L'antispécisme, c'est le lit du paganisme qui se développe. Chez l'homme, l'attention prend une tournure tout à fait particulière qui n'existe pas chez les animaux, c'est-à-dire elle le révèle à lui-même. C'est-à-dire, elle révèle à l'homme sa propre intériorité. Et disons que par l'attention, nous rentrons en nous-mêmes. Et ce qui se passe de tout à fait singulier, c'est ceci, dans ce retour qui nous révèle à nous-mêmes que l'attention produit ou qu'est l'attention, il y a aussi une autre révélation, c'est-à-dire elle nous révèle que nous ne sommes pas autosuffisants, qu'il y a autre chose, autrement dit, il n'y a de révélation de Dieu que par le travail de l'attention. Donc ce que je veux montrer là, au fond, c'est la double nature de l'attention comme expérience intérieure, un, révélation de soi, deux, révélation à partir du sentiment ou de la découverte de notre insuffisance, révélation d'une transcendance, c'est-à-dire de Dieu. Dieu se sert de notre capacité d'attention pour se révéler à nous grâce à l'attention.
Oui, vous écrivez que l'attention, c'est le geste par lequel l'intériorité prend conscience d'elle-même, c'est la manifestation de l'âme.
Oui, c'est très augustinien ce que je dis là. En même temps, il suffit d'avoir un petit peu un souvenir de notre propre croissance intellectuelle et spirituelle, ou de regarder autour de soi, ou bien, ben vous savez, j'étais longtemps professeur de philosophie, donc de regarder comment grandissent dans l'esprit les adolescents que j'avais en classe. Donc il suffit de regarder tout cela pour se rendre compte de cette œuvre de l'attention. Et sans doute, finalement, que à travers l'attention, il y a l'œuvre de Dieu en l'homme. Alors, j'essaie de montrer dans ce livre que Dieu est capable d'attention. C'est-à-dire, nous supposons que Dieu est attentif à l'homme. Vous voyez, la jonction, ce n'est pas une faculté, mais c'est une posture, sans qu'il y ait rien de négatif dans ce mot. La posture commune entre l'homme et Dieu, c'est l'attention. C'est-à-dire, nous pouvons être attentifs à Dieu, c'est-à-dire Dieu se révélant à nous, uniquement parce que Dieu est d'abord attentif à l'homme, ce qu'expose avec éclat la Bible.
Alors moi, j'ai votre livre sous les yeux, mais pour ceux qui nous écoutent et qui, eux, ne l'ont pas, je signale qu'il se présente sous la forme de 21 courts chapitres, précédés d'un avertissement et d'une ouverture, et qui se conclut par un épilogue sans fermeture. on y reviendra. C'est un peu une suite de fragments, et vous faites d'ailleurs référence au début au fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Pourquoi lui avoir donné cette forme? Est-ce que c'est parce que le sujet ne se prêtait pas, pour vous en tout cas, à un long développement démonstratif?
Le livre, d'abord, est un discours amoureux. L'amour de l'âme et l'amour de l'âme pour Dieu, de la première à la dernière ligne. Fallait-il faire quelque chose de démonstratif, c'est-à-dire quelque chose de scolastique, au fond, un travail scolastique ou un travail de théologien? Oh, c'est au-dessus de mes capacités et de mes compétences, de toute façon. Ça ne m'aurait pas intéressé non plus. Donc, lorsque les éditions Arthège m'ont demandé si je voulais écrire d'abord un livre dans la collection Éloge spirituel, ils m'ont demandé, mais Éloge spirituel, quel objet? Et puis je leur ai dit, ben, l'attention. Parce que la question de l'attention est une question que je me pose depuis très très longtemps, depuis ma découverte dans l'adolescence de Kierkegaard. Peut-être aura-t-on le temps de revenir sur la marque du protestant Kierkegaard, du luthérien Kierkegaard sur ce livre. Je finis quand même ma réponse à votre question. Ben, je me suis dit qu'il fallait ouvrir des fenêtres, c'est-à-dire non pas tenir un discours doctoral de docteur sur l'attention, mais ouvrir des fenêtres sur l'attention comme phénomène que l'on peut observer, la montrer. J'ouvre une fenêtre et je montre l'attention ici, là, devant vous, dans les mathématiques par exemple. J'ouvre une autre fenêtre et je montre, oh, que voit-on? Mais on voit Sainte Élisabeth de la Trinité, l'attentive, la sainte de l'attention. J'ouvre une autre fenêtre, on voit, oh, voilà un monsieur qui promène son chien. Quelle est la relation attentive entre le chien et son maître? Voilà la méthode, si on peut parler de méthode, que j'ai essayé de mettre en œuvre, mais ce n'est pas pour autant une rhapsodie. Ce n'est pas rhapsodique. On ne saute pas. Il y a quand même un fil conducteur tout au long. J'espère que je ne choque pas l'animateur d'une émission musicale en parlant de la rhapsodie sous
non, pas
cet
du
aspect-là.
Tout, pas du tout. Et puis, pour revenir à un terme que vous utilisez souvent dans le livre, toute liberté est laissée au lecteur, et moi je laisse aussi la liberté à mes invités de s'exprimer comme ils le souhaitent. Et vraiment, on peut cheminer dans ce livre comme bon nous semble, on peut revenir en arrière, on peut picorer, et ce n'est pas un de ses moindres mérites. Alors, au début du livre, vous expliquez ce qu'est une expérience intérieure, cette porte qui s'ouvre sur l'âme et à laquelle l'attention est une condition nécessaire, on pourrait même dire impérative. Et vous évoquez une notion qui m'a un peu troublé, mais beaucoup intéressé, c'est la notion de mésêtre, M-E-S, être, l'être, accent circonflexe. Qu'est-ce que c'est le mésêtre?
Le mésêtre est le sentiment de n'être pas ce que l'on doit être. C'est-à-dire, c'est le sentiment d'être à côté de sa vie. Alors cette notion, m'est venu, et même le terme, m'est venu lorsque, à 16 ans, j'ai lu d'assez près Søren Kierkegaard.
On y vient.
Plusieurs textes de Søren Kierkegaard. Et j'ai compris à ce moment-là, Kierkegaard, c'est la recherche de Dieu sous le regard de Dieu. Et dans Kierkegaard, vous apprenez finalement que la foi est la victoire permanente sur le doute. C'est-à-dire, nous ne cessons de tomber et de nous relever. Et ce sont ces relevailles qui sont la foi. Donc c'est une dynamique. Mais cela se produit justement parce qu'il y a cette menace du mésêtre dans l'être. C'est-à-dire, cette menace d'être à côté, d'être tombé à côté de sa vie, de marcher à côté de ses pompes, comme on dit vulgairement. Au fond, c'est le soleil kierkegaardien qui s'est levé sur ma conscience philosophique lorsque je commençais à le lire il y a 55 ans.
Mais j'ai l'impression aussi que le mésêtre, ce serait ce qu'on pourrait appeler le moi social, c'est-à-dire la soumission d'une personne, de la personne, à son moi haïssable, celui dont parle Pascal dans ses pensées, c'est-à-dire justement ce qui est l'obstacle à l'expérience intérieure et à l'accès à l'âme, à son âme.
Également, être à côté de sa vie, c'est être uniquement dans le moi social, dans ce que les baroques auraient pu aussi appeler la comédie. Ou bien, comme je suis en train de vous parler, une idée commence à germer dans mon esprit. Chez Sartre, nous trouvons la notion d'être rivé. Être rivé, c'est au fond l'aliénation. Être rivé à sa condition sociale. Chez Lévinas, le jeune Lévinas, le premier Lévinas, nous trouvons la notion d'évasion. Je crois que le mésêtre, c'est cet être rivé à sa condition sociale, être uniquement dans le déterminisme social, ou bien être entièrement dans l'extériorité. C'est-à-dire n'être pas en mesure de pratiquer cette attention qui révèle l'intériorité. Donc, il y a mésêtre quand nous n'avons pas conscience de notre intériorité qui est produite par l'attention. Mais c'est cela, être rivé. Et l'attention, c'est ce qui va nous libérer de cet être rivé, c'est l'évasion. Mais ce n'est pas une évasion qui nous jette loin de nous, hors de nous, comme ça, dans l'extériorité où nous sommes déjà. C'est au contraire une évasion qui nous ramène à nous-mêmes, dans cette intériorité. Mais finalement, cette intériorité, ce n'est pas le moi haïssable, ce n'est pas l'ego haïssable, c'est quelque chose qui est capable de se débarrasser de soi-même. Vous avez trouvé que c'est mystique, que c'est la mystique que je décris là. Donc c'est quelque chose qui est capable de se débarrasser de soi-même, d'un délaissement. Voilà, c'est ça l'évasion. Au fond, l'évasion qui barre l'être rivé décrit par Sartre est comme ça double. Cela nous évade du monde extérieur, mais cela nous évade aussi de la fausse intériorité, le moi haïssable.
Et d'ailleurs, on pourrait dire que dans l'attention, il y a le fait d'être attentif, mais il y a aussi le fait d'être attentionné, et attentionné notamment au prochain. Vous écrivez « L'attention est amour et l'amour est attention. » L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, vous trouvez cela chez Sainte Élisabeth de la Trinité, dont je reparle encore. Amour et charité. L'attention exprime le... Enfin, c'est pas amour au sens banal. C'est amour au sens théologique. L'attention exprime cet amour universel qui est celui qui est diffusé par Dieu ou dont Dieu nous a rendu capables en nous faisant imago Dei à son image.
Nous allons parler des fruits spirituels de l'attention, mais vous écrivez qu'il existe aussi des fruits secs de l'attention. Il y aurait une attention négative. Qu'est-ce que ce serait une attention négative ?
C'est une attention uniquement tournée vers les réalisations que j'appellerais mondaines, vers par exemple la réussite sociale, vous savez, si vous voulez réussir dans le monde, finir animateur comme Ardisson sur les chaînes de télévision, ou bien devenir Premier ministre ou Président de la République, et sans doute même grand sportif. Je sais que vous êtes, comme moi, admirateur des champions cyclistes et des grands joueurs de rugby, mais il faut beaucoup d'attention à soi. Mais ce n'est pas quelque chose, au fond, le résultat n'est pas quelque chose de si enviable que ça. C'est pourquoi je parle de fruits secs, parce que c'est un résultat qui ne produit rien sur le plan spirituel.
Dans votre livre, il y a aussi un chapitre consacré à ce que vous appelez l'attention volontaire, qui serait différente de l'attention spontanée, qu'on peut peut-être qualifier d'attention animale, être sur le qui-vive. Et cette attention volontaire, ce serait finalement, c'est l'attention, et j'en ai parlé il y a quelques instants, l'attention au prochain, celle qui reconnaît le prochain comme un but en soi. La charité est toujours attention, écrivez-vous.
Oui, l'attention volontaire, j'ai trouvé chez Descartes, dans le descriptif des vertus, quelque part, lorsqu'il décrit les vertus, une des bonnes dispositions de l'âme, c'est vouloir aimer Dieu. Donc, à la source de l'amour de Dieu, il y a une volonté, comme ça. Mais aimer Dieu, c'est une forme d'attention. Seulement, Dieu n'est pas... Vous pouvez aimer Dieu de manière abstraite, mais finalement, Dieu se retrouve, vous le retrouvez dans les autres. Vous le retrouvez aussi dans toute la création, dans la beauté de la nature, dans la beauté des animaux.
Et dans le lien qu'on peut créer aussi avec les animaux. Vous en parlez de ça.
Oui, on en parle.
Notamment de la relation très forte que vous avez avec vos chiens et actuellement votre chienne Naya que vous citez dans
votre livre. Oui, peut-être tout à l'heure, nous en reparlerons. Donc, au fond, l'attention amoureuse que nous avons pour tout ce qui est porté par une finalité, par la finalité dans la nature. Et contrairement à ce que ou voulu faire croire le positivisme et même certains scientismes. Bon, et là, je reprends, bien entendu, Étienne Gilson, Gilson ou Gilson, comme vous voulez, tout dans la nature est finalité.
Oui.
Voilà. Et s'il y a finalité, évidemment, il y a Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de finalité comme ça. La grande absurdité, enfin, l'auto-contradiction du scientisme, c'est de croire qu'une finalité s'est faite sans qu'il y ait un désir ou une volonté de finalité à la base. Donc, nous avons l'amour pour cette finalité. Quand nous avons l'amour pour autrui, on ira le prochain, on expliquera peut-être tout à l'heure
oui.
Pourquoi. L'amour pour autrui, le prochain, l'amour pour les animaux, l'amour pour la nature, c'est au fond l'amour de la finalité, c'est-à-dire de Dieu. Alors, revenons sur cette histoire de prochain que vous avez évoquée il y a 5 minutes. Nous sommes dans une époque, dans une drôle d'époque, dans une époque très égoïste, c'est-à-dire celle de la fabrique des égos refermés sur eux-mêmes, que l'on met en compétition sous la coupe de l'évaluation. Il s'agit de tout le temps évaluer, c'est-à-dire aussi humilier, puisque l'évaluation, c'est la volonté d'humiliation. C'est évident. Donc, nous sommes dans une époque de fragmentation totale de l'être collectif en des millions et des milliards d'égos qui sont tous à eux-mêmes leur propre fin. Et cette époque développe un discours de l'altruisme ou un discours sur l'autre, une divinisation de l'autre absolu, mais dont la fin est de renforcer cet ego. C'est-à-dire, plus il y a d'autres, moins il y a de prochains. C'est ça. L'autre, au fond, c'est l'abstrait éloigné, dont on va parler à la tribune de l'Assemblée, dans des pétitions, des manifestes, des émissions sur l'estrade du Festival de Cannes ou de toute autre manifestation artistique, au nom de quoi on va multiplier les actions, les associations, les interdits également, au nom de quoi on va limiter l'autorisation à penser, au nom de quoi donc on va mettre en danger beaucoup de libertés, mais il n'y a pas de prochain. C'est-à-dire, on reste enfermé dans le même cercle, dans le même système que l'on appuie sur ce discours faussement généreux de l'altérité. Mais le prochain est absent. Et pourquoi ? Mais parce que le prochain, c'est le concret. C'est celui qui est là. Le prochain, ça mettrait en très grand danger tout ce système de l'autre. Donc, j'oppose l'autre, l'altérité, autrui, au prochain, et je penche plutôt pour le prochain que pour la fausse générosité, la générosité de parade, qui est l'idolâtrie de l'autre. L'autre, c'est une idolâtrie. Le oui. Prochain, c'est le christianisme.
Oui, vous dites l'autre, miroir narcissique qui n'existe pas ailleurs que dans les discours. Il manque à la rhétorique de l'autre l'excentrement de l'attention, le pas de côté qu'elle implique.
Oui, dans l'idolâtrie de l'autre, je reste moi-même. Tandis que le prochain m'oblige à m'excentrer, comme vous l'avez rappelé.
Nous allons faire l'habituelle pause musicale dans cette émission, avant de reprendre notre discussion sur votre éloge spirituel de l'attention. Vous avez souhaité que nous écoutions la chanteuse Ariel, et on va écouter sa chanson « Toute une vie à une », extraite d'un très bel album, album du même nom, qu'elle avait fait paraître en 1996. C'est une magnifique chanson d'une artiste, Ariel Burgelin de Hugo, hein, c'est son nom
oui.
Complet, que vous appréciez beaucoup, et qui, comme vous, a des origines ariégeoises et même couseranaises.
Oui, alors vous êtes
et
trop...
on salue les couseranais qui nous écoutent,
vous
sur
êtes
notre fréquence à Saint-Giron.
Trop modeste, c'est vous qui m'avez proposé Ariel, que nous apprécions tous les deux.
Oui, oui, oui.
Et bien entendu, c'est une excellente idée. Aux auditeurs d'en juger.
Oui, et nous écoutons tout de suite Ariel qui chante « Toute une vie à une ».
La pléiade
Nous sommes de retour pour la seconde partie de ce numéro de Vivante Église. Mon invité est le philosophe Robert Heidegger pour Éloge spirituel de l'attention, paru récemment aux éditions Artege. Alors, on vient d'en parler, hein, sans dire que votre livre est une déclaration de guerre à l'époque. Vous êtes quelqu'un de pacifique tout de même. Je trouve que ce livre vient la percuter par bien des côtés. Alors, vous avez parlé de ce chapitre qui a pour titre « Autre, autrui, prochain ». Et le suivant a pour titre « De l'attention à l'humilité ». Vous avez évoqué cette vertu qu'est l'humilité. Et vous écrivez que « prochain » est un mot qui rend humble, alors que l'autre est un syntagme qui sent l'orgueil. Et vous ajoutez que l'humilité est le plus beau fruit de l'attention. L'attention rend humble parce qu'elle oblige à s'oublier et justement à oublier le moi social, le moi haïssable, selon la fameuse formule de Pascal.
Oui, il y a deux idées que vous avez relevées et vous me condamnez au psittacisme.
Oui, bon, mais je pense qu'il faut insister sur ce point parce que,
quand même le faire.
Encore une fois, je trouve que cette partie, c'est la seconde partie du livre, vient vraiment percuter notre époque.
Alors
c'est
là,
pas du tout, dans l'air du temps, c'est très mal pensant, ça, ce que vous dites là.
Ce n'est pas, c'est pas volontaire. La première de ces idées, c'est au fond que l'autre ne sert qu'à nous gonfler nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est le mot de passe et sont les idées de passe qui permettent au moi de se faire luire, de briller. C'est le contraire de l'humilité, cela. Donc, c'est une fausse générosité, des discours généraux qui se retournent contre eux-mêmes et dont la fonction sociale, finalement, ça n'est que de renforcer. Ça n'est que le pouvoir. Ça n'est que la domination et le pouvoir. C'est le type de discours qui sert celui qu'il tient, mais c'est tout un système qu'il tient, qui sert à assurer son pouvoir et à dominer. Voilà. Donc, c'est un discours de la force, en fait, sous l'apparence contraire. Inversement, le rapport avec le prochain, alors c'est pas un discours, c'est plutôt une posture, un habitus, une façon de vivre qui implique le dessaisissement, qui implique le dessaisissement de ce sur quoi se fondait l'inverse, le discours sur l'autre. Le discours sur l'autre, c'est la réassurance du pouvoir. La pratique du prochain, c'est le dessaisissement de cela, hein, si vous voulez. C'est pourquoi je crois que la pratique du prochain est de toute façon un tremblement de terre par rapport à ce que vous avez appelé tout à l'heure l'époque. Alors, ce n'est pas une déclaration de guerre à l'époque que je fais là. Mais c'est dire si vous préférez le prochain à l'autre, si vous préférez le prochain à l'autrui, à l'altérité, eh bien vous provoquez une secousse sismique dans le monde moderne.
Et d'ailleurs, vous dites, en parlant du monde moderne, le moi est l'idole du monde moderne, ce que n'est pas ou n'est plus l'âme. L'homme n'est plus rien d'autre que le moi, et le moi a dévoré l'homme. Et là, vous parlez vraiment de la névrose narcissique de l'époque.
Oui. Très longtemps, je reviens, mais ce n'est pas l'enjeu de cette émission aujourd'hui, mais des siècles durant, l'affaire de notre existence, c'était l'âme. Désormais, c'est le moi. L'âme, c'est tout autre chose que le moi. Désormais, c'est le moi, mais pas n'importe quel moi. Dire le moi social, et c'est ce moi social qui est le contenu du narcissisme dont vous parlez. La relation au prochain, la substitution du prochain à l'autre, est quelque chose qui détricote ce moi social et qui nous rapproche de l'âme.
Oui, et vous écrivez quelque chose qui là aussi m'a beaucoup intrigué. L'attention ne parvient en fait de sa valeur spirituelle que du jour où elle devient une ascèse qui humilie le moi. Humiliation et libération sont toutes un.
Il ne faut pas comprendre le terme d'humiliation, qui est un terme qui a une très belle histoire et une très grande noblesse.
Mais qui renvoie humus.
Voilà, par ailleurs. Il ne faut pas du tout le prendre dans le sens négatif répandu par la psychologie ou les sciences humaines aujourd'hui et sur lequel finalement se fonde tout le discours de la plainte. Ce n'est pas du tout en ce sens-là. Humiliation est un terme qui a une grande et belle histoire. L'humiliation, ça n'est rien d'autre que l'humiliation du moi social qui, loin d'être une catastrophe atomique, détruit ce qui empêche l'apparition, le surgissement de ce que nous portons de plus profond et qui est en même temps la chose la plus solide. Et donc c'est l'humiliation féconde. Alors quelque part, j'ai lu, je crois que c'est Apollinaire ça, oui, détruit mais que ce soit avec des outils nuptiaux. C'est Apollinaire ou Char, je ne me souviens plus. C'est peut-être Char. Mais en fait, l'idée que je développe là devant vous, c'est au fond celle-là. C'est-à-dire, l'humiliation est une destruction nuptiale. C'est la destruction nuptiale du moi, c'est la destruction du mésêtre. C'est la destruction des structures c'est du mésêtre, voilà. Destruction du mésêtre qui fait surgir tout ce que le mésêtre empêche d'être.
Vers la fin de votre livre, vous en venez à Saint-Augustin, que vous placez très haut dans l'histoire de la pensée occidentale, et on vous comprend. Dans le chapitre « Saint-Augustin, les fruits spirituels de l'attention », vous dites que le christianisme est la religion de l'attention. Prier, c'est attirer l'attention de Dieu sur soi, chercher Dieu en soi-même.
Oui. En cherchant bien, je crois qu'on ne trouve pas de... ou que je ne trouve pas, enfin il faut être modeste, pas s'universaliser, enfin c'est moi simplement, comme ça. En cherchant bien, je ne trouve pas de, personnellement, de meilleure définition du christianisme comme religion que celle-ci, religion de l'attention, au fond. Parce que l'attention est cette attitude qui révèle à la fois, comme nous l'avons dit au début de l'émission, notre intériorité et Dieu. Et cela, je l'ai appris dans Saint-Augustin. Pas seulement, bon, il faut dire un petit peu la vérité, si j'ai pu l'apprendre dans Saint-Augustin, c'est parce que Je le pensais un petit peu moi-même, confusément. Sinon, je n'aurais pas remarqué que saint Augustin, c'était ça. Saint Augustin, de tous les penseurs, c'est le plus important. Parce que c'est le plus humain. Vous savez, on accuse saint Augustin, j'ai encore vu récemment dans la presse, on l'accuse d'être le père du sentiment de culpabilité. Ça est vrai, mais un tout petit peu vrai, pas plus. Les accusations contre saint Augustin sont très exagérées, mais c'est vraiment saint Augustin qui permet à l'humanité de se révéler à elle-même. C'est dans l'œuvre de saint Augustin que cette révélation a lieu. Quand on se met à lire saint Augustin, on se sent plus humain. C'est pour cela qu'il est le plus grand de tous. Et c'est pour cela que lorsque vous avez étudié saint Augustin, ben, finalement, tous les autres écrivains du moi sont des écrivains dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de Rousseau, vous n'avez même pas besoin de Freud, quand vous avez bien saisi saint Augustin. Ah, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai oublié le début.
Ah, bah, la question, c'était effectivement le christianisme, oui, religion d'attention, et je disais que prier, c'est attirer l'attention de Dieu sur soi, c'est chercher Dieu en soi-même. L'infini, vous l'écrivez, hein, l'infini et le fini se rejoignent par l'attention.
Oui,
c'est ce qu'on retrouve dans la prière.
Insistons là-dessus. Prier, c'est rechercher, et c'est un petit peu provoquer l'attention de Dieu, qui est peut-être absent ou dont nous ne sentons pas la présence lorsque nous vivons comme ça, dans l'extériorité à nous-mêmes. Et lorsque nous entrons dans une attitude de prière, par la pensée ou bien par le corps, enfin par les deux, nous demandons à Dieu de diriger son attention vers nous. Nous le provoquons un petit peu. C'est joli de dire que nous provoquons l'attention de Dieu. Allez, tu t'occupes de moi. Tu m'écoutes un petit peu.
En parlant de provocation, je ne sais pas si c'en est une, mais vous évoquez le credo hein, dans votre livre, pour revenir toujours à la prière. Vous dites que les mots de cette prière, l'attention qu'il faut leur porter quand on la récite, c'est le levain de l'âme.
C'est vrai pour les deux symboles, voilà. Les deux credos.
Et l'attention, le levain de l'âme, quand on prie avec attention, Dieu est présent. Et là, je reprends vos mots, hein. Dieu n'existe pas, il est présent. Est-ce que c'est provocateur de dire ça ?
Un petit peu, mais un petit peu seulement. Ce n'est pas vrai, mais c'est un petit peu vrai. Peut-on imaginer, c'est pourtant ce qu'Aristote a fait, un Dieu qui serait existant, mais pas présent à la création, pas présent à l'humanité. Au fond, un tel Dieu ne serait pas intéressant. Mais les épicuriens pensent un peu cette chose-là. Hein. Les dieux vivent dans les interstices de l'univers et n'ont aucune influence sur nous, ça moque pas mal. Et le concept d'existence est, je trouve, assez dangereux parce qu'il a l'inconvénient d'ontologiser ou de réifier, hein, comme disent les marxistes, c'est-à-dire de transformer Dieu en quelque chose. Mais si Dieu est quelque chose, nous nous heurtons à des contradictions insolubles. Par contre, ces contradictions disparaissent lorsque nous disons « mais la question de l'existence de Dieu n'est pas une question, c'est un faux problème, Dieu existe-t-il ou Dieu n'existe pas ?» C'est le type même du faux problème, c'est « Dieu est-il présent ou Dieu n'est-il pas présent ?» Et comment teste-t-on cette présence ? Eh bien c'est l'expérience intime, l'expérience intérieure de chacun, qui est la preuve de la présence de Dieu dans le monde. Alors, expérience depuis les débuts du christianisme, mais je crois que là, nous devons retrouver Simone Weil dans toute...
J'allais vous en parler.
Voilà, dans toutes les spiritualités, y compris les spiritualités andines ou asiatiques ou celles des populations des pôles. Dans toutes les spiritualités, il y a un sentiment de la présence de quelque chose qui est d'un autre ordre que l'humain. Ne posez pas la question de l'existence de Dieu, elle n'a aucun intérêt. Il faut poser celle de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, eh bien, je suis désolé de le dire aux athées. D'ailleurs, l'athéisme, c'est une imbécilité. Je suis obligé de le dire aux athées. La présence de Dieu est évidente aux êtres humains depuis les origines de l'humanité. La preuve de Dieu, c'est l'évidence de sa présence. Vous savez que même dans le concept de Dieu après Auschwitz, certains s'étaient posé la question, mais Dieu nous a-t-il abandonnés ? Dieu était-il présent là ? Eh bien, il y a des témoignages historiques de choses très saintes qui se sont passées parmi les détenus et qui manifestent la présence de Dieu, même là, même dans le creux de la dérédiction la plus terrible. Certains ont pu faire l'expérience de la présence de Dieu, qui est évidente depuis les origines de l'humanité.
Alors vous citiez effectivement Simone Veil plusieurs fois, et je voulais y venir aussi, elle parle de la prière, elle dit la prière, on revient à l'attention, la prière n'est que l'attention sous sa forme la plus pure, l'attention absolument pure est tournée vers Dieu parce qu'il n'y est présent que dans la mesure où il y a attention.
Oui, alors d'abord il y a de multiples formes de l'attention, je ne sais pas si on l'a évoqué ou pas, mais il y a une forme de l'attention qui surpasse toutes les autres, c'est la prière. Lorsque vous êtes dans la concentration absolue sur vous-même et concentration qui se projette sur l'être ou la présence vers laquelle se dirige la prière. Voilà, ça c'est l'attention absolue, l'attention spirituelle absolue.
Il y a un épilogue à votre livre. On avait parlé dans mon introduction et vous précisez que c'est un épilogue sans fermeture. L'attention ouvre l'espace de la vie intérieure, dont elle est l'expérience hein, finalement. Et on en revient donc à ce que j'ai pu dire au tout début. L'attention, c'est donc la porte de la vie intérieure en tant qu'expérience, mais vécue très concrètement. C'est quelque chose de très concret.
Oui, ce n'est pas uniquement un discours académique. Non, l'attention, c'est... J'allais dire que c'est quelque chose dont chaque jour que Dieu fait dans notre vie, nous percevons un peu plus la valeur et la fécondité. Voilà. C'est-à-dire plus les années passent, plus le reste à vivre se réduit, plus nous sommes à la fin du jour, à la tombée de la nuit, plus nous nous apercevons de la valeur et de la fécondité de l'attention. Plus nous nous disons que finalement le sens de la vie, c'est l'attention qui nous la révèle. Et alors j'ai écrit épilogue sans fermeture, je crois que c'est ça le titre,
oui, la fin, épilogue
sans fermeture.
Ça.
J'ai mis ce titre-là à l'épilogue parce que je n'ai pas voulu faire un discours académique ou professoral, mais au fond j'ai voulu digresser sur l'expérience ou les multiples expériences que chacun peut faire de l'attention. C'est pourquoi je ne crois pas que ce livre doive effrayer ou faire fuir des lecteurs qui vont se dire « Oh là là, un livre écrit par un philosophe, je ne vais rien y comprendre ». Non, non, c'est même le contraire. C'est un livre que j'ai écrit en essayant de m'appauvrir moi-même pour m'adresser aux pauvres. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être un pauvre d'esprit pour m'adresser aux pauvres d'esprit, avec toute la noblesse de ce syntagme, pauvre d'esprit. C'est-à-dire, c'est très difficile de devenir un pauvre d'esprit. J'ai essayé, là. Et c'est en même temps très noble d'être un pauvre d'esprit qui se met à écouter quelqu'un qui leur parle.
Il y a une citation de Plotin en exergue de votre livre, c'est la première phrase qu'on lit. Et vous terminez sur cette citation aussi, ce livre. Voilà la citation. « Notre patrie est le lieu d'où nous venons et notre Père est là-bas. » Ça peut faire une belle conclusion à l'émission aussi.
Une ouverture et une conclusion. Il me semble que cette formule de Plotin dans les Énéades résume et symbolise l'existence humaine. Notre patrie est là-bas, bon, chez notre Père.
Nous pourrions parler longuement encore de ce livre, mais il faut maintenant en rendre l'antenne. Merci infiniment Robert Redeker d'être venu à Radio Présence pour nous parler de votre éloge spirituel de l'attention paru aux éditions
Arte. Je peux vous dire une chose ?
Allez-y.
Alors, j'ai dédié ce livre à un prêtre de la région qui est un ami depuis mon adolescence et qui est aujourd'hui à la retraite à la maison Saint-Augustin, c'est le père Jean Duclos.
Et il est à la maison Saint-Augustin.
Oui.
Comme la boucle est bouclée. Alors, je signale que vous avez aussi publié tout récemment, il y a quelques semaines, Descartes, le miroir aux fantômes, un essai paru aux éditions du Cerf. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.